بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشافر ان اسلام نو رميسيون الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous asseoir quelques instants après la salat de Isha, à une période où nous sommes en train de nous préparer très certainement pour accueillir ce mois Mubarak, le mois de Ramadan. Donc ce soir, contrairement aux autres mardis, on ne fera pas de programme sur l'au-delà, mais on va plutôt faire un programme sur la préparation des a'mal qui nous mèneront vers l'au-delà. La préparation spirituelle du croyant pour arriver à ce degré de iman qui lui permettra, inshallah, d'espérer avoir les plus hauts grades le jour de Qiyam. Le thème principal, le mardi, c'est la situation des croyants le jour de Qiyam et surtout les élus d'Allah, les awliya'ullah, les proches d'Allah, les personnes qui ont su consacrer l'essentiel de leur temps, de leur vie pour Allah, qui ont consacré leurs bienfaits, tout ce qu'Allah leur a accordé, ceux qui les ont utilisés pour Allah. On a vu à travers les 7 catégories de personnes, et on était en train de compléter la 7e catégorie de personnes, que ces croyants avaient compris l'objectif de leur passage sur ce dunya. Et pour arriver à cette compréhension saine, le sens profond de « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » que nous avons été créés uniquement pour l'ibadah, pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ben pour arriver à cette compréhension, il y a un travail à faire sur soi-même. Et ce travail à faire sur soi-même, bien sûr, ça transite par l'accomplissement des bonnes actions. Ça transite par l'accomplissement des bonnes actions, ça transite par l'éloignement des péchés. On va dire que là, on reste dans du classique, dans du connu. Et dans le mois de Ramadan qui arrive à grands pas, certainement, chaque personne a déjà l'intention d'accomplir de bonnes actions. Nous avons tous l'intention de freiner nos péchés, de faire en sorte de les arrêter progressivement ou idéalement totalement. Mais vous avez ce jeûneur qui, à l'approche du mois de Ramadan, a de bonnes résolutions. Il les applique, il les met en application parce qu'il sait qu'est-ce qu'Allah accorde aux jeûneurs durant ce mois. Et hier, on avait fait un premier programme sur la préparation spirituelle du mois de Ramadan. L'objectif était de rappeler quelques vertus afin de réaliser comment est-ce que ce mois est important et qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Alors, je suis donc ce jeûneur qui a, ce croyant, pardon, pas encore jeûneur, mais ce croyant qui a déjà des objectifs précis en tête. Je vais faire le Qiyam al-Layl, le Tahajjud, je vais faire la lecture du Coran, le Dhikrullah, je vais faire beaucoup de du'a, je vais contrôler mon regard, je vais contrôler mes oreilles, je vais contrôler mes pensées, je vais contrôler ma langue, et ainsi de suite. N'est-ce pas là de nobles objectifs, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Ça, c'est déjà une approche qui est, on va dire, on a fait la moitié du chemin, là. Celui qui a quelques jours de Ramadan a déjà fait son planning mensuel, son planning journalier même, qu'il va l'appliquer de façon, inch'Allah, progressive et de constante, surtout durant ce mois. C'est quelqu'un qui a déjà fait la moitié du chemin de la préparation du Ramadan. On avait rappelé hier que le simple fait de faire le niya, Allah nous accorde déjà la récompense. Et quand on fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers nous. Donc celui qui a déjà préparé, celui qui a déjà ses intentions, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Maintenant, on va dire que si on analyse la situation de ces personnes, là on quitte la situation des personnes qui ne donne pas d'importance au mois béni, qu'Allah nous protège. On est avec cette personne qui donne de l'importance, on est avec cette personne qui a vraiment l'intention d'être, par exemple, régulier de salat al-tarawih, de ses du'as, de ses adhkars, comme la plupart d'entre nous, alhamdulillah. Mais dans cette catégorie de personnes sincères et engagées, on a là celui qui accomplira les actions, on va dire, de façon mécanique presque, parce que c'est le mois de Ramadan et il se doit d'avoir ce comportement spirituel. Les actions seront certes accomplies. Il y aura, inch'Allah, les récompenses. Mais il est possible qu'une personne accomplisse de bonnes actions, mais que la personne ne trouve pas la lumière spirituelle à travers la bonne action. et pour trouver la lumière, le ruh, la halawa, la douceur de la foi à travers la bonne action, il est nécessaire d'avoir une, on pourrait dire une communion avec cette bonne action, une symbiose. Il faut qu'on s'imprègne de la bonne action et qu'on arrive à donner le sens aux ibadah. Et par le biais des ibadah, avec prise de conscience, compréhension, on arrivera à développer les qualités intérieures. La soumission à Allah Azza wa Jal, la taqwa sans le moindre doute, mais également la soumission à Allah Azza wa Jal. L'objectif de l'intervention, on ne va pas être long comme hier, on va être peut-être 30 minutes, amplement suffisant. L'objectif de l'intervention, c'est de savoir comment développer la soumission à Allah Azza wa Jal à travers les bonnes actions. Pourquoi on a commencé l'intervention avec وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et non pas يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, parce que le jeûne, tout comme وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, tout comme الحج وَأَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ, ces versets qui donnent, qui légifèrent les piliers de l'islam, ce sont des versets connus, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé par وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, parce que le terme لِيَعْبُدُونَ, nous avons créé les djinns et les ins uniquement pour adorer Allah. Le terme لِيَعْبُدُونَ, ben, là-dedans, il y a as-salah, il y a zakah, il y a le hajj, il y a le ramadan, il y a toutes les bonnes actions. Mais l'accomplissement de ces bonnes actions, là, c'est un petit peu plus technique. Il faut être un peu éveillé pour voir où est-ce qu'on veut arriver, quand on a la possibilité de faire passer le message. L'objectif, il y a un objectif, voilà, à travers l'action. L'objectif n'est pas l'accomplissement de l'action. Il y a une nuance entre accomplir l'action parce qu'Allah nous l'a demandé, ce qui est bien, hein, accomplir l'action parce que c'est une obligation, accomplir l'action parce que c'est le moment de le faire, et si je dépasse ce moment, c'est kaza ou ça ne compte plus. Ça, c'est une compréhension, on va dire, basique. C'est ce qu'on appelle le sens du devoir. Et le mu'min doit avoir le sens du devoir. Ce fikar pour ses salats, pour ses amal. Mais si on monte un peu de grade, on monte un peu en niveau, on a celui qui accomplit les bonnes actions, pas uniquement pour les faire et les parachever, mais il recherche une proximité avec Allah à travers la bonne action. Ce qui fait que par deux unités de prière, une personne peut se rapprocher d'Allah d'une telle distance, avec une telle ampleur, qui dépasse de loin celui qui va peut-être faire une nuit de ibadah, une nuit de tahajjud, mais il le fait parce que, par exemple, c'est Laylatul Qadr, il faut faire beaucoup, il faut faire. On nous a expliqué qu'il faut faire beaucoup de bonnes actions, donc je vais faire le maximum, je suis fatigué, je vais boire un café, je vais m'accrocher. Je ne dis pas que celui qui fait autant de bonnes choses, ça ne sert à rien. Abadan wallah, astaghfirullah. Ce qu'il fait, c'est excellent. Mais celui qui va faire ces deux rakats avec vraiment la recherche de la proximité, la recherche de la soumission envers Allah Azza wa Jal, ça c'est quelque chose qui sera durable. C'est, on veut dire, c'est une lumière qu'il apporte à sa foi, c'est une augmentation sûre de son iman. Et nous fixons comme objectif, peut-être pas de faire beaucoup plus de bonnes actions que d'habitude, mais de les faire avec prise de conscience et en réalisant la portée et l'apport spirituel de chacune de ces ibadahs, de chacune de ces bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qad ja'akum shahru ramadan shahrun mubarak. Le mois de Ramadan est arrivé, c'est un mois béni. Et hier on avait expliqué le sens de la baraka de ce mois béni. C'est un mois béni pour l'ensemble des croyants. Et là c'est un signe de la manifestation de la clémence d'Allah, c'est que durant ce mois béni, même une personne qui entend en mal, et Allah est seul juge, hein, Allah est le seul juge, même une personne qui entend en mal n'est pas très attachée à la religion, n'est pas très pratiquante, mais même cette personne va venir à la masjid. On croise dans la masjid du mois de Ramadan parfois des personnes qui, en temps normal, ne fréquentent pas la masjid. Mais ces personnes, durant ce mois béni, ils prennent conscience de l'importance de ce mois. Et ils vont répondre présent. Mais toutes ces personnes vont obtenir la baraka. Toutes ces personnes vont obtenir la grâce, la clémence et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc, les savants disent que c'est un signe de manifestation de la clémence d'Allah, que même le ansi, même le pécheur endurci, même celui qui est très loin du din ou de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, durant ce mois béni, il trouve une solution, il, il arrive à tirer du temps pour se rapprocher d'Allah. Même celui qui travaille dans des bureaux, qui a, mashallah, occupe des postes, on va dire, très importants, guillemets, et qui, en temps normal, estime qu'il est impossible de quitter son travail pour venir à la masjid, même celui-là, on le trouve à la masjid. C'est-à-dire qu'Allah, Rabbul Izzat, donne une hidayah, donne une guidée à chaque croyant durant ce mois pour venir dans la maison d'Allah, pour accomplir les bonnes actions, et Inch'Allah, chaque personne bénéficie de ce mois béni. Et certains savants expliquent que si, certainement, s'il n'y avait pas le mois de Ramadan, Allah seul sait quelle serait notre situation, avec les péchés que nous cumulons, avec le niveau, on va dire la mauvaise qualité, on pourrait dire, de nos bonnes actions, ces actions qui n'ont pas beaucoup de sifat, qui n'ont pas certainement une grande valeur parce qu'elles sont... Elles sont remplies de défauts, de manquements de sincérité, manquements de constance. Ben, si on devait se suffire uniquement de ces actions pour se présenter devant Allah, Allah seul sait quelle serait notre situation. Mais ce Ramadan nous permet de voir nos péchés complètement effacés, lavés. Et ce Ramadan nous permet d'obtenir quantité de bonnes actions, de cumuler, de ressortir avec un quota, une quantité de hasanat dans notre livret de compte. Et entre autres, le plus bel exemple, c'est la fameuse nuit du destin, khayrun min alf shahr. Imaginez le nombre de, si on devait quantifier, on devait compter, on devait peser le nombre de tonnes, on pourrait dire, de bonnes actions qu'on arrive à greffer dans notre livret, dans le livret des bonnes actions, chose qu'on ne pourrait jamais faire durant les 11 autres mois de l'année. Et le nombre de comment est-ce qu'Allah pardonne durant ce mois? Ben jamais durant les autres périodes de l'année, on pourrait obtenir une telle clémence, un tel pardon de la part d'Allah. Donc, Shahrul Mubarak, les savants disent que c'est un mois de bénédiction. Ça, c'est ce qu'Allah nous donne. Allah Rabbul Izzah maintenant entend quelque chose de nous. Kataballahu alaykum siyama. Allah vous y a prescrit le jeûne. Les savants disent que hadha ma alaykum. Ça, c'est ce qui nous incombe. C'est l'effort que nous devons faire. Et cet effort, on va retrouver, si on analyse, on superpose les différents hadiths qui parlent des vertus, qui se terminent par fa'addu fi anfusikum khayra. Ou d'autres hadiths, wayanzuru ila tanafusikum fi. Ces termes de hadith qui montrent qu'Allah Azza wa Jal regarde nos efforts. Qu'Allah attend du croyant une augmentation de ses bonnes actions. C'est-à-dire qu'Allah nous donne. Qu'est-ce qu'Allah nous donne également? Tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont ouvertes. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées. Tughallu fihi shayatin. Les shayatin sont enfermées. Les savants disent que ce sont les conditions idéales pour se rapprocher d'Allah. Il n'y a pas meilleure condition. Même quand vous allez au hajj, vous n'êtes pas à l'abri des waswasas de shaytan. Même quand on est au hajj, on peut penser à accomplir des péchés. Durant le hajj, même tu es en état de ihram, shaytan il est toujours là. Il peut essayer de d'insuffler le mal. Mais quand on est dans ce mois béni, il y a une himaya, il y a une protection. Et la rahma descend. Et le maghfira englobe tout le monde. Et les doigts sont acceptés. Et la moindre action nous apporte beaucoup plus de récompenses. C'est-à-dire que le cadre est là. Et ce cadre est fixé par Allah, le clément, le miséricordieux, le généreux, pour que chaque personne fasse son cheminement vers lui, trouve le pardon de ses péchés, l'acceptation des doigts et le cumul des bonnes actions. Voilà donc ce qu'Allah nous accorde et voilà ce qu'il attend de nous. Addu fi anfusikum khayra, qu'on se dépasse mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Et il y a également la mise en garde quand le prophète alayhi salatu wassalam avait dit Amin. Ça, on avait oublié de citer hier. Quand le prophète avait dit Amin en montant le mimbar. Combien de fois il avait dit Amin? Trois fois. Et parmi ces trois fois, qu'est-ce qui nous intéresse pour le mois de Ramadan? Celui qui a man adraka. Celui qui vit un mois de Ramadan, mais qui ne se fait pas pardonner. Qui n'arrive pas à bénéficier du pardon d'Allah, de la clémence d'Allah. C'est-à-dire que la personne qui ne fera aucun effort, qui le vivra comme n'importe quel autre moment de l'année, qu'Allah le protège, ben, cette personne-là a été maudite. Des paroles qui viennent de l'ange Jibril alayhi salam, mise en garde de Jibril dans la masjid Nabawi, attestée par le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit Amin. Donc on a d'un côté les encouragements, le tarhib, de l'autre côté le tarhib, la mise en garde. Attention à celui qui ne va pas faire les efforts, qui ne va pas essayer de se rapprocher d'Allah. Donc ça, on va dire, c'est une introduction dans le sujet. On a tous compris qu'on a besoin de faire beaucoup d'efforts, et on a déjà certainement l'intention de le faire. Maintenant, il y a trois approches. Première approche, qu'Allah nous protège, c'est l'approche festive et culturelle. L'approche festive et culturelle, on le trouve ici, chez nous, mais on le trouve beaucoup dans les pays musulmans aussi, dans les pays majoritairement musulmans, où le Ramadan est vécu comme une fête. On décore les maisons, on décore les rues, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de publicité pour le Ramadan, il y a des chants qui passent à la télé et tout. On va dire que là-dessus, il n'y a pas de mal. Mais la problématique, c'est lorsque le Ramadan devient un événement. Et je ne vous décris pas comment dans certains pays arabes, Allah musta'an, des personnes vivent le Ramadan. C'est vraiment une horreur. Et là, on se rend compte que comment est-ce que Shaitan peut détourner les gens du droit chemin. Entre les personnes qui passent l'essentiel de leur nuit à festoyer, à se réunir. C'est bien, toute la famille se réunit, mais à manger toute la nuit. Depuis le Sarawir, ils mangent toute la nuit jusqu'à... Et je vous dis, en connaissance de cause, c'est un repas qui commence après le Salat au Tarawih, qui va inclure le Suhur, qui va inclure le Sehri. Et après, ils font le niyad de Suhur, de Sehri, et après, il va à la Salat accomplir le Fajr. On va dire que c'est bien, il a fait Isha, il a fait Tarawih, et il fait Fajr, oui. Mais cette nuit-là, y avait-il pas autre chose à faire que de manger, même si tu as invité plein de gens, tu as invité les membres de la famille, tu as noué les liens, tu as renforcé sans le moindre doute. Mais il y a autre chose. Le Ramadan, c'est le mois de ferveur, c'est le mois de soumission, c'est le moment de développer une intimité avec Allah Azza wa Jal à travers les nuits. Le Ramadan, c'est, et vous voyez le jeûne, quand Allah Azza wa Jal met en avant le jeûne illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, que la rétribution du jeûne, ça appartient à Allah Azza wa Jal uniquement. Pourquoi? Parce que là, on va très vite, la synthèse, les savants expliquent que le jeûne, c'est l'action dans laquelle il y a le plus de sincérité. Quand quelqu'un jeûne, comment tu peux savoir? Quand quelqu'un prie, quand quelqu'un lit le Coran, on voit. Quelqu'un fait le dhikrullah, on peut voir. Quelqu'un, il va à Makka et tout, on le voit. Bref. Mais quand quelqu'un est en état de jeûne, en dehors même du mois de Ramadan, on ne peut pas savoir est-ce que tu as jeûné. Et personne n'a le droit de dire je suis en état de jeûne, autrement on passe de l'ostentation. Pourquoi est-ce que, ça m'en explique donc, pourquoi est-ce que c'est l'action la plus aimée par Allah? C'est parce que c'est l'action par excellence où il y a l'ikhlas, où il y a la sincérité. La personne le fait pour Allah. Le jeûne, les savants expliquent, c'est une action silencieuse. C'est une action qui se fait dans le cœur. C'est entre nous et Allah. Il dit que durant ce mois donc, apprends à développer, à créer un lien secret entre toi et Allah Azza wa Jal. Et comment doit se manifester ce lien secret? Là, on sort un peu de la soumission, mais on reste dans le côté secret. Le lien secret avec Allah Azza wa Jal, c'est les nuits, en les passant de l'ibada et non pas en festoyant. On vous parlait d'un certain mode de vie avec ces gens qui festoient. Également dans beaucoup de pays arabes, Allah musta'an, durant le mois de Ramadan, ils ont des musalsalat, des feuilletons spécifiques au mois de Ramadan. Et ça commence le soir, ça dure toute la nuit, et les familles restent devant la télé toute la nuit à regarder. Quel Ramadan! Je vous parle de choses réelles, hein. Allez fouiller un peu sur internet, on appelle ça musalsalat Ramadan. Je ne dis pas le nom des pays, d'accord? Mais il y a des gens qui font que ça, Allah musta'an. Dans d'autres pays du monde musulman, je ne citerai pas. Après l'iftar, c'est le maqha. Ils vont au café. Ici, il n'y a pas de café. Café comme un peu en France, mais les salons de thé, où on reste dehors. Et ils vont passer la nuit, blablabla, parler, chicha, ainsi de suite. Tadyi'u al-waqt, perte de temps. Et ça, c'est le Ramadan festif. C'est le Ramadan. C'est khida', c'est comme si que Shaitan, avant de partir, il vous a déjà mis le programme, il a envoyé le virus, il est dans le système, et lui il est parti, mais le virus travaille. C'est-à-dire que le Ramadan n'a pas été compris, et la personne le vit comme un moment de fête. Ikhwan fillah, Ramadan c'est pas comme Noël, Ramadan c'est pas joie de l'an. Ramadan, ce n'est pas la joie de, excusez-moi, fête des mères ou fête des pères ou Saint-Valentin ou anniversaire. Il n'y a rien de festif de le mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est ibadah. Ramadan, c'est soumission à Allah Azza wa Jal. Ramadan, c'est développer une intimité, développer des actions secrètes. C'est passer tes nuits à pleurer, à demander pardon pour tes péchés. Celui qui passe ses nuits à dormir, Après Salat al-Tarawih, il dort, il se réveille juste pour le suhur. On va dire qu'il accomplit ce qu'il fallait faire. Il y a des vertus pour celui qui fait Salat al-Tarawih, qui fait le Isha al-Tarawih et qui fait le Fajr sans le moindre doute. C'est-à-dire que, vous voyez la nuance entre l'action accomplie, les récompenses, et celui qui se surpasse, celui qui se dépasse, celui qui, mashallah, arrive à trouver le nectar. Et ça, c'est réservé à quelques personnes, à peu de gens. Ceux qui vont vraiment développer la allakum tattaqoun, qui vont vraiment développer la notion de taqwa, qui vont se donner au maximum pour Allah Azza wa Jal. Cette intimité, c'est les nuits. Cette intimité, ce secret entre nous et Allah, c'est l'aumône. Le Ramadan, par excellence, c'est le mois où on donne la sadaqa. C'est donner énormément de sadaqa, une sadaqa que personne ne connaît, ne saura. Regardez, là, ce soir, on découvre avec plaisir cette moquette, mashallah. Ça, c'est fadl min Allah. Et j'espère que chaque personne qui fréquente cette masjid, lahu sahmun fi hadhihi sadaqa, que chaque personne ait contribué financièrement. Ça, c'est un devoir. Celui qui n'a pas pu le faire et que le budget était bouclé, ça, c'est khassar. C'est quelque chose qui a été perdu et qu'on ne rattrapera jamais. Parce que celui qui a donné, par exemple, on regarde cet exemple de cette moquette, ça, c'est waqf, oui ou non? Waqf lillah. Chaque personne qui va prier de là, sur cette moquette, subhanallah, ça va dans mon mizan hasanat. Même après ma mort, si, inshallah, la donne l'envie que cette moquette dure longtemps, chaque personne qui va l'utiliser, on aura des récompenses. C'est-à-dire que, une aumône qu'on doit faire entre nous et Allah, que personne ne saura. C'est tout ça le Ramadan. C'est une intimité. C'est une relation spéciale qu'on développe avec Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas un moment festif. Le côté festif culturel, dans l'homme l'a vu dans certains pays, dans notre communauté à nous, que ce soit La Réunion, que ce soit Maurice, d'accord, on a à peu près les mêmes habitudes. Le côté festif, attention, c'est le Ramadan synonyme de manger, de repas, de bons repas. Si on analyse un petit peu le mode de fonctionnement des foyers un mois avant le mois de Ramadan, tout le monde est parti à la chasse au blanc de poulet. Tout le monde est parti à la chasse de palsamoussa. J'ai une belle soeur qui est venue de Maurice à La Réunion, elle a acheté palsamoussa, congelé, par le chinois, parce qu'elle n'a plus Maurice. Fikar. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Il faut, tout le monde a besoin de manger sans le moindre doute. Mais, sans accuser quiconque, tout le monde est en train de préparer et remplir les congélateurs. Mais je veux dire, ça c'est, on va dire que c'est une nécessité de manger. Mais le Ramadan ne doit pas se résumer à ça. Et quand on voit des mamans qui, à l'heure de la rupture du jeûne, iftar, elles vont passer les 30 minutes, les 30 dernières minutes de leur jeûne, là où c'est le cadeau final, où tu demandes du'a, Allah accepte. Du'a du jeûneur est accepté par Allah. Et là, la maman, elle passe 30 minutes devant les fourneaux à retourner le samoussa, le tchamp, le tikka, ainsi de suite. Tout le monde est content, on va manger. Mais c'est l'or, ce moment-là, c'est de l'or. Elle doit être sur son musalla ou quel que soit l'endroit en train de lever les mains et demander à Allah Azza wa Jal ce qu'Allah donne de mieux aux jeûneurs. Donc prise de conscience, réaliser qu'on n'est pas de le côté culturel, festif, gâteau, et festivité, festoyer, non. Ça c'est une approche qu'on ne veut pas. Il y a l'approche de Ramadan purement fiqh et jurisprudence. La personne qui va essayer de savoir comment respecter le jeûne en étudiant les maslahs, sans le moindre doute, c'est quelque chose de positif. Mais les savants disent que celui qui va se focaliser sur la façon de faire les ibadahs, là on pose des questions sur la zakat, là on essaie de connaître les maslahs précis, ce qui annule le jeûne ou non. C'est bien de connaître son dîn, mais celui qui reste focalisé sur le fiqh, on peut craindre que lorsque le moment de zakat est terminé, le moment de Ramadan du Somme est terminé, ben cette ferveur disparaît également. Parce qu'il s'était engagé pour accomplir des actions mu'aqqad précis. Ça c'est un autre niveau. Le niveau supérieur, ce que nous recherchons, c'est celui qui va travailler la'allakum tattaqun. C'est celui qui va développer al-istislamu lillah, la soumission à Allah Azza wa Jal à travers chaque moment, chaque bonne action et chaque interdit également du Ramadan, il va développer une relation avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est vraiment le plus haut degré, c'est la personne qui va atteindre l'objectif du Ramadan qui est l'objectif des ibadah, qui est l'objectif de la salah, qui est l'objectif de la zakat, du du'a, de n'importe quelle bonne action. Prenons un exemple, la salah. Salah qu'on retrouve durant ce mois béni, bien sûr, mais qu'on retrouve mudaf, multiplié au-delà des cinq salahs, on a les rakats de tarawih. C'est-à-dire qu'encore plus d'occasions de se rapprocher d'Allah durant ce mois béni. Si on analyse, et c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de développer, on ne va pas être long là-dessus, quand une personne accomplit la salat, il y a le contrôle de son gestuel, il y a le contrôle de son regard, bref, il y a le contrôle total, il y a même le contrôle de ses pensées. Une bonne salat, c'est une salat dans laquelle on trouve la concentration et la dévotion. Quel est l'objectif? C'est que l'homme arrive à se soumettre entièrement à Allah Azza wa Jal. Et quel est l'objectif de cette soumission? C'est que durant toute sa vie, il arrive à vivre cette soumission. On a compris ça. Ça, c'est un discours très simple qu'on a l'habitude d'expliquer. Mais le jeûne, le saum, le jeûne du Ramadan, à travers chaque éloignement, le jeûne, on va dire, c'est moitié ibadah et moitié ijtinab. Moitié éloignement. Ça peut être éloignement de haram, mais c'est également éloignement de mubah, éloignement de choses qui sont autorisées en temps normal et qui ne sont pas un mal en soi, comme le fait de manger, le fait de boire, et pour celui qui est marié, le fait de s'approcher de son épouse. Des choses qui sont autorisées, pas de contraintes, mais qui, durant un laps de temps, deviennent interdites. Alors, maintenant, comment est-ce que, à travers la migraine, à travers le manque de sommeil, à travers le ventre qui crie quoi? Qui crie famine. À travers l'estomac qui fait un concerto. À travers cette soif, à travers cette fatigue. Comment est-ce que je vais développer la soumission? Là, c'est délicat, c'est subtil. Il y a celui qui a faim du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai faim, normalement. Après Fajr, j'ai faim. Jusqu'au soir, sans arrêt. C'est comme ça. C'est les pieux qui n'ont pas faim, il paraît. Je n'ai pas trouvé de dalil pour ça. Hein. D'accord? Celui qui a faim et qui dit t'es les dieux, il fait chaud. Est-ce qu'il y a des récompenses pour cette petite souffrance? Oui ou non? Bien sûr, sans le moindre doute. Mais maintenant, utilise cette faim. Utilise cette soif. Utilise ce mal de tête parce qu'on ne dort pas suffisamment, parce que le rythme est changé. Utilise ce manque de sommeil. Utilise toutes ces mujahadas. Ces efforts, ces sacrifices donnent un sens. Celui qui arrive à donner un sens, il développera la soumission. Allah Azza wa Jal. À chaque fois que tu as faim, au lieu de se dire, t'es les gars, la faim, hein, dis pas ça, ça sert à rien. C'est pas ça qui remplit le ventre. C'est pas ça qui calme la faim. Chaque fois qu'on a faim, on dit Subhanallah. Ça, c'est pour Allah. Ça, c'est un petit sacrifice pour Allah. Quand on se trompe, on a envie de manger quelque chose et qu'on se dit que, ben non. Ne te dis pas tout simplement, mais non, carême, là, il n'est pas bon, les piègues, ils ne mangent pas, là. Il faut attendre encore 3 heures de temps pour manger. C'est vrai, tu t'es éloigné, c'est bien. Mais donne un sens à cet éloignement. Tu te dis que, subhanallah, j'ai envie de le faire, mais je le fais pas, ça c'est pour Allah. Ça c'est ma soumission pour Allah, Azza wa Jal. Quand on a mal à la tête, quand on a le manque de sommeil, on se dit que ça c'est pour Allah. C'est un moment où je dois me donner ad-dufi anfusikum khayra. C'est normal de souffrir. Quand vous êtes debout, salatu tarawih. Et que les genoux commencent à crier, quand les genoux commencent à faire mal, d'accord? Au bout de 4 rakats, 8 rakats, 12 rakats, quand on arrive 12e en général, c'est chaos technique. Quand arrive 12e, là on vagabonde, on pense au suhoor de demain, au iftar, ou s'il y a quelque chose à manger, est-ce que madame l'a fait goulab jambou? Est-ce qu'elle a fait laddou? Est-ce qu'elle a fait. Hein? Non, le soir il ne mange pas de chambou, pourquoi t'as la vieille? Ça fait plus léger, d'accord? Là, à partir du 12e, là, on décroche. Et là, on a mal. Là, on a mal au dos, là, ainsi de suite. Mais les savants disent que quand tu sens que tu as mal aux genoux, tu as mal aux articulations, parce qu'on ne fait pas beaucoup de salat. Parce que quand on prie en général, si ce n'est pas derrière l'imam, c'est « Qulallahu ahad inna a'tainaka al-kawthara wa al-'asri » et « Idha ja'a nasrullahi wa al-fath » Ça, c'est nos 4 sourates préférées. Wallahu musta'an. Oui ou non? On ne se tient pas debout devant Allah. Contrairement à ce qu'Allah Rabbul Izzah nous demande dans le Coran, dans la Sourate Al-Muddathir, entre autres, le fait de passer le maximum de temps debout dans la salat. Chose que les Sahaba le faisaient normalement. Et du coup, lorsqu'on fait la salat au Tarawih, c'est mille et une souffrances de rester debout immobile, mille et une souffrances de se concentrer. Ben, donne un sens à cette souffrance. Et dis-toi, qu'on se dise à nous-mêmes, que ça c'est pour Allah. Jamais on se dit que non, là on est fatigué, je vais prier assis, ne fais pas. Ou tu dis que je suis trop fatigué là, j'ai déjà fait 8 là. Il y a la vie, Imam Shafi'i dit 8 c'est bon, donc c'est bon, maintenant je rentre à la maison. Ne le fais pas, reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin et corrige-toi. Les savants disent que le ramadan, c'est également une madrasa. Le ramadan, c'est également l'école de la tazkiya, l'école de la purification intérieure, l'école de la correction, de notre propre correction. Donc, donne un sens à ces difficultés. Et lorsque ton esprit commence à vagabonder pendant la salat al-tarawih, ramène la concentration. Et tu te dis que non, je suis là pour Allah. Et je me soumets à Allah. Et je me tiens debout, immobile, pour Allah. Je me tiens en génuflexion, pour Allah. Je me prosterne autant de fois dans une nuit, pour Allah. Donner un sens, faire le lien entre le ibadah et le sens propre du ikhlas, lillahi azza wa jal. Si pour chaque bonne action, on arrive à créer ce lien entre nous et Allah, à comprendre que hadha lillah, on va voir comment est-ce que, qu'est-ce qu'on va obtenir, comment on va sentir un apport spirituel. Et lorsque le croyant cumule les bonnes actions, avec la prise de conscience que tout ça c'est du ibadah, tout ça c'est de la soumission, parce que le ibadah c'est at-tadhallul wal khudu' lillah. C'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et quand on avait cité le verset Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, les savants expliquent que tuti'uhu wa la tu'si wa tankhadi'u amamahu wa tastaslimu lahu subhana. Le ibadah, c'est pas uniquement la zakat ou le ramadan, etc. Le ibadah, c'est une vie de soumission. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie où tu fais les bons choix. C'est une vie où tu te soumets à lui. C'est une vie où tu fais passer ses ordres avant tes pulsions, avant tes shahawats. Et l'accomplissement des diverses bonnes actions vont nous permettre d'arriver à un stade où on a une soumission totale en Allah Azza wa Jal. La salat, soumission totale, on a expliqué. Le jeûne, soumission du nafs Allah Azza wa Jal, avec donc pour objectif que durant toute ma vie, j'arrive à contrôler mon nafs entièrement. J'arrive à lutter contre les wasawis de Shaitan. Chaque fois que j'ai envie d'accomplir un péché, je me dis que non, je m'en éloigne pour Allah. Mais celui qui arrive à ce niveau, il devient un muttaqi, ça veut dire qu'il a atteint l'objectif de la'allakum tattaqun. Celui qui a atteint l'objectif de la salat, qui a atteint l'objectif du saum, et l'objectif, on pourrait dire, de la zakat également, c'est faire passer l'amour d'Allah avant l'amour de ses propres biens, cette personne-là gravit les échelons spirituels et il atteint la réalité de la foi, la taqwa qui amène vers l'ihsan. C'est un état spirituel. Comme on a dit, des gens qui font, une personne qui va faire 2 rakat avec cette prise de conscience, ce sera peut-être meilleur que celui qui fait 30 rakat, mais sans vraiment comprendre, sans réfléchir. On avait vu dans une des catégories, on a vu que je pense sahaba un tabi'in qui dit, pour moi, passer une nuit à répéter dans ma tahajjud wal adiyat dhabha il me semble avec idha zulzilat al ardu, pour moi ça m'apporte plus que de lire tant de juz, tant de sipara de le namaz, parce que ces versets là je vais les répéter et je vais méditer, je vais comprendre le sens, je vais m'en imprégner, et ça apportera un changement. Quand le prophète Ali salat wa sallam explique que parfois une personne donne 2 dirhams, ça vaut mieux que des centaines de milliers de dirhams donnés dans le chemin d'Allah. Parce que ces 2 dirhams, peut-être il le donne avec une telle sincérité, il arrive vraiment à donner un sens à ce sadaqa. C'est pas comme celui qui donne sans réfléchir, même si ce qu'il fait c'est bien, c'est généreux. Mais il y a des gens qui, le mois de Ramadan, ils donnent à la masjid, ils font un chèque et tout. Alhamdulillah, une bonne chose. Mais le plus important, c'est de donner un sens à ces ibadahs. Et comme on l'avait expliqué hier, quand tu accomplis la bonne action, là ce qui va distinguer celui qui cherche la soumission, c'est quand il fait le niya, il y a en même temps de son niya le désir de istiqama directement. Le désir de fermeté, de constance. Parce que celui qui programme son tahajjud, mais lui il a programmé 29 tahajjud, pas plus dans l'année, ou 30, pas plus. Il a programmé 29 jours de lecture du Coran, ou 30 jours de lecture du Coran dans l'année, et pas un de plus. Bien sûr, il est en train de faire cette bonne action, mais dans sa tête, dans son cœur, on pourrait dire, il n'y a pas du tout l'intention de istiqam. Alors que celui qui, lorsqu'il commence à lire le Coran ou à faire son tahajjud, dit que ça c'est quelque chose de tellement, c'est tellement noble que je le fais avec l'intention de le faire toute ma vie, inshallah, pour Allah. La lumière spirituelle, elle va rentrer dans son cœur et c'est cette personne qui aura certainement tawfiq de istiqama, de continuer, inshallah, à accomplir les bonnes actions. Donc, On est parti un peu dans tous les sens. J'espère que vous gardez le fil conducteur. Celui qui a compris l'objectif de la salah, du somme, ainsi de suite, et qui a réalisé le sens profond de istislam lillah, l'esprit de, on crée le contexte de soumission d'Allah Azza wa Jal, il y aura quatre natija. Hubbul ibad. Il va aimer les bonnes actions. Même des actions qui sont un peu difficiles, comme s'il y a des actions qui lui paraissent un peu compliquées, il le fera quand même. Et il y sera attaché. Il n'aura jamais de al-malal, il n'y aura jamais de lassitude. Quand est-ce que la lassitude envahit notre cœur? Par exemple, pour le tarawih, c'est quand on le fait sans comprendre. Là, on est lassé. Il y a peut-être des gens, même à force d'aller à Makkah, Allah nous protège, c'est devenu une routine. À force d'aller à Umrah, c'est devenu quelque chose de normal. C'est comme un voyage touristique pour aller sortir un peu. Na'oudoubillah. Le malal, la lassitude, c'est lorsqu'on n'arrive pas à comprendre la relation avec Allah et la chance qu'Allah nous donne dans l'accomplissement de ses bonnes actions. Donc celui qui a compris le sens de chaque a'mal et qu'il arrive à le faire à l'intérieur qu'il le fait pour Allah, jamais ne sera lassé. Parce que autant il pourra faire des actions qui le rapprochent d'Allah, autant il aura envie de le faire. Ziyadatun fil ikhlas et augmentation donc de sa sincérité, de sa dévotion et de sa concentration. Parce que quand tu comprends ce que tu accomplis, c'est pour Allah, tu vas le faire avec tahsin, avec perfection. C'est là qu'on va voir la personne qui va parfaire sa salah. La personne qui va allonger ses rukours, qui va allonger ses sujoud, qui va essayer de lire, au lieu de lire trois fois Subhanallah Rabbil Alaa, il lira cinq fois, sept fois, onze fois, vraiment en ressentant le bonheur qu'il y a dans le fait d'être en prosternation. Qu'Allah donne la possibilité de ressentir la soumission à lui, la soumission à Allah à travers chaque bonne action. Et de ressentir également la soumission à Allah Azza wa Jal à travers l'éloignement de chaque haram. Quand on contrôle notre regard durant ce mois, il y a deux approches. Il y a l'approche basique. Non, là, déconne pas là. Là, c'est Ramadan, il ne regarde pas n'importe quoi. Là, il reste sérieux. Quand camarade y envoie, ce sont des amis qui ne sont pas musulmans, envoie des messages d'invitation sur un groupe WhatsApp ou Facebook pour aller à tel endroit, boîte de nuit, samedi soir, l'as de pique ou je ne sais pas où, ben, la personne se dit que non, Ramadan il ne déconne pas. Mais quand il dit Ramadan il ne déconne pas, il y a un petit discours latent, caché, qui veut dire qu'après Ramadan il déconne. C'est comme ça. Et donc ça c'est une approche basique. Mais l'approche plus spirituelle, plus intelligente, c'est celui qui se dit que non, je ne peux pas faire ça parce qu'Allah me regarde, parce qu'Allah me voit, parce qu'Allah m'observe et parce qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Mais celui qui arrive, c'est un idéal de iman. Allah me donne la possibilité de l'atteindre. Je ne vais pas vous donner la solution. En fait, ce n'est pas comme une recette de gâteau. Mettre tant grammes de farine, de sucre glace et vous aurez ça. Ça, c'est tawfiq min Allah. C'est quand Allah te donne parfois une... Il y a des fois où quand tu commences ta prière, tu sens une concentration, tu sens une quiétude, tu sens que là, tu es dans le vrai, là. Là, c'est bon, là, c'est parti, là. Il y a des fois où quand tu lèves les mains pour faire doua, tu ne ressens rien. La routine demande vite, après, finis vite pour partir, il y a des choses à faire. Il y a des fois, quand tu commences à faire doua, ça peut arriver sans qu'on s'y attende, on sent qu'on n'a plus envie de décoller. On est en train de demander et c'est comme si que on réalise qu'on est en train de converser avec Allah. Et là, les savants disent, quand tu ressens cette fraîcheur, tu ressens des frissons même parfois, ça veut dire que là, tu as un moment de kaboul. Là, vas-y, fais-toi plaisir, on va dire. Demande tout ce que tu as demandé. Il y a des fois où on ressent parfois cette douceur de la foi, ça c'est quelque chose de magnifique. Donc, celui qui, l'homme intelligent, donc par rapport au péché, qui n'aura pas la réaction basique, lui, quand il s'en éloigne, il ressent le muraqabatullah. Il ressent la pensée d'Allah. Et celui qui arrive à développer cet état d'esprit, il le gardera, Inch'Allah. C'est pas que je vais pas en boîte parce que c'est Ramadan. C'est pas que je regarde pas le haram parce qu'il faut respecter le mois de Ramadan. Non! Je ne regarde pas parce qu'Allah me regarde, parce qu'Allah m'observe. Je ne vais pas dans ces endroits parce qu'Allah m'observe, parce que les anges écrivent et les anges ne loupent rien de ce que j'accomplis. Ça, c'est vraiment la prise de conscience. Ça, c'est vraiment l'élévation spirituelle durant ce mois béni. Et théoriquement, les conditions sont réunies pour cette élévation spirituelle. L'absence de shaitan, l'affaiblissement du nafs, ça nous permet normalement de réfléchir. Ça nous permet de nous recadrer, de voir la réalité des choses. Donc Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, nous accorde la possibilité d'accomplir les bonnes actions avec soumission, avec compréhension. Je vous donne, on va s'arrêter, je vous donne 7 ou 8 exemples de bonnes actions. Faire le jeûne correctement. Dire que le faire correctement, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, on s'en éloigne pour Allah. À chaque fois qu'on est fatigué, on ressent cette fatigue pour Allah. Ça s'appelle, ça c'est un des sens de tahsin ou saum, c'est faire la relation avec le sacrifice pour Allah. Deuxièmement, iltizam salat. Être assidu et régulier dans ces 5 salats, idéalement au premier rang. Et faire un sacrifice pour ça. Si en temps normal, c'est la salat de Zohar, par exemple, c'est à 13h. Et si en temps normal, je quitte chez moi à 12h50 pour venir, là, je vais quitter à 12h30. Faire un effort, créer l'effort. Le mujahada, à travers, par exemple, cet exemple de quitter plus tôt la maison, pour être sûr qu'on est au premier rang, pour être sûr qu'on a le takbiru là. Donc ça, c'est deuxième nasiha, deuxième bonne action qu'on peut faire, et ressentir quand tu quittes à 12h30, alors qu'on aimerait bien faire la sieste, on dit que non, ça c'est pour Allah, pour être au premier rang, pour être devant Allah Azza wa Jal, ressentir le mujahada de cette bonne action. Troisième conseil, salatu tarawih, le faire correctement. Bien malheureux, celui qui, durant la salat al-tarawih, quitte la masjid, il va parler avec ses amis de Allah, musta'an. Ou celui qui quitte la masjid, il va boire un milkshake. Khassar. Si tu vraiment en envie un milkshake. Après la salat al-tarawih, quand c'est terminé. Et là aussi, sans perdre trop de temps. Mais comment laisser passer cette salat qui a eu lieu une seule fois dans l'année? On le sacrifie pour autre chose. Si vous passez près des mosquées, le nombre de personnes qui restent à l'extérieur. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe de leur tête. Et là, on se dit qu'en plus, l'État n'est pas là. Imaginez que l'État était là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été même. C'est-à-dire qu'il y a un rituel, mais il n'y a pas prise de conscience que ça, c'est ribada. Ça, c'est des moyens pour qu'Allah m'agrée et m'accepte. Donc, la salat al-tarawih, on fait l'intention de le faire correctement. Même si on ne fait pas, même, je suis Shafi'i ou je suis Maliki, et que dans mon madhab, il y a 8 rakat. Mais si tu fais un imam qui est Hanafi, qui fait 20, fais les 20. Parce que là, le prophète a expliqué que celui qui reste avec l'imam, hatta yansarif, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'imam quitte la masjid. Donc ne sois pas cette personne qui quitte la mosquée avant l'imam, mais reste, tant que l'imam prie, continue à prier derrière lui, et ressent que c'est un gros sacrifice, salat al-tarawih. C'est long, 1h30, 1h45, ça c'est pour Allah. Troisième nasiha donc. Quatrième bonne action, al-ikthar min qira'at al-Qur'an, bien sûr. C'est le mois où on doit lire autant que possible le Coran. De nos jours, mashallah, il n'y a plus besoin forcément d'avoir le livre, le mushaf. Avec les applications, on peut lire le Coran partout, sur notre GSM. Donc, on essaie de passer le maximum de temps dans la lecture du Coran, mais on monte un peu de niveau lecture et étude du sens des versets. Et c'est le moment également de se rapprocher des savants, pour connaître un peu le sens des versets. Pas uniquement vous demander qu'est-ce qui casse carrément, non, c'est bon ça, on connaît, on a fait le tour. Mais essayez de créer un lien avec le Coran, par le biais de nos savants, par le biais des kutub, des livres, et par le biais des assemblées religieuses. Et puis, si vous voulez avoir plus de motivation, lisez les hadiths qui parlent des récompenses pour la lecture de Alif, de Lam et de Mim. On comprendra comment on obtient des récompenses. Et si je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre vraiment la lecture à la madrasa, ou ma lecture n'est pas top, mais je dois réaliser que celui qui lit avec difficulté là-haut, Ajran, il a une double récompense, la lecture et les difficultés. Donc tout ça, ça doit nous motiver. Ça fait 3 ou 4 bonnes actions. Cinquième bonne action qu'on doit essayer de faire au maximum, l'aumône. Mais ce n'est pas l'aumône, c'est Ramadan, il faut donner. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Oui, Ramadan, il faut donner, mais donne pour Allah. Réalise que cet argent, je l'ai gagné. Ça, c'est la sueur de mon front. Ça, c'est ce que j'ai gagné dans mon travail. Mais je le donne pour Allah parce que l'amour d'Allah est plus fort que mon attachement pour les biens. Alors que dans le Coran, il est stipulé « وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ » L'homme aime ses biens. Mais l'amour pour Allah est supérieur à notre attachement pour les biens. Et voilà, l'autre exemple cité séparément. « Ad-du'a » Passer beaucoup de temps dans les doigts, et principalement des nettoyages de la nuit. Ne soyons pas cette personne qui regarde l'heure avant de dormir. Bon, demain, il vient manger jusqu'à 5h20. Il ne parle plus de sihri, hein. On parle plus de suhur, où les anges sont là, ils font dua lil mutasahhirin, pour ceux qui se réveillent. Il n'y a pas cette prise de conscience spirituelle là, là jusqu'à que l'aigle ait mangé. C'est le petit déjeuner qu'on a mis un peu plus tôt. Allah musta'an. C'est perte de conscience de l'importance. Donc ne soyons pas cette personne qui regarde et qui dit, bon, il mange jusqu'à, exemple, 5h20, donc il lève 5h. Mange 15 minutes, il mange moins. Pas besoin de manger beaucoup. Hein. Tac, tac, un bol cornflakes, un banane, un petit jus d'orange. Mais pas l'entraque, pas kalikichi et tout. Ne soyez pas cette personne qui se réveille pour manger basse. Mais soyons plutôt cette personne qui donne, ça c'est pas une sunna, mais je vous donne une idée, 30 minutes de tahajjud, 15 minutes d'istighfar, 15 minutes de dua. Ça c'est un quota minimum les 20 premiers jours. Après les derniers décades, là, il faut accélérer là. Là, il faut mettre le turbo, c'est autre chose. Derniers décades, il y aura d'autres discours, inshallah. Mais 30 minutes de tahajjud, ça c'est vraiment le minimum. 15 minutes de istighfar, subhanallah. Quand on voit comment Allah pardonne durant ce mois béni, lève les mains, rappelle à Allah tout ce que tu as fait de mal. Et Allah, remonte à ta jeunesse, remonte quand tu avais 14 ans, 15 ans, bah, à lire. Tous les erreurs, tous les péchés, les namaz qu'on a ratés, ou les manquements, ainsi de suite, les périodes de jahiliya, peut-être parfois d'ignorance, pense à tout ça, et Allah pardonne, demande, et regrette, ressent le haya, la honte. Comment j'ai pu désobéir à Allah Azza wa Jal, et lis les doigts Allahumma inni dhalamtu nafsi, lis les doigts Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, lis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. 100 fois, ça c'est la moindre des choses, ça. Dès les tiers de la nuit, bienheureux celui qui va lire 100 fois la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Bienheureux celui qui saura lire beaucoup de fois Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. En pensant, je me suis fait du tort à moi-même, tous les péchés que j'ai cumulés. Et si tu ne me pardonnes pas, et si tu ne m'accordes pas ta pitié, nous serons parmi les perdants. Bienheureux celui qui saura consacrer beaucoup de temps de l'istighfar, de le doua et dans le tahajjud. Zikrullah autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Quand on ne lit pas le Coran, on doit faire le zikrullah. Et avant-dernière action, it'am ut'am. Donner à manger aux jeûneurs. Là, on est dans une phase où les masajid sont en train de s'approvisionner en tamr, en date, pour la rupture du jeûne. Le musulman intelligent, celui qui veut les meilleures des récompenses, il va voir le responsable de la masjid. Combien de kilos de dalle vous avez déjà? 30, 40? Combien il faut pour un mois? Khalas, j'achète 20 kilos, je vous donne. Il y a des personnes, je ne fais pas de pub pour personne, hein, il y a des commerces qui vendent des dattes. Il y a des personnes qui importent des dattes de Madina Munawwara. Subhanallah, ça coûte un peu cher. Mais imagine, tu consacres 200 euros. C'est quoi 200 euros? Vous avez fait les courses par rapport à Allah Musta'an. J'ai fait les courses de Ramadan ce matin. J'ai lu l'istighfar quand j'ai vu la faute de Allah. Tout ça, on est censé ne pas manger. Imaginez que c'était un mois de fête, on devait manger beaucoup. Allah Musta'an. Et l'argent, ça va vite, ça va, ça part. L'argent, ça part parfois de façon que tu n'imagines pas. Et quand tu ne donnes pas, parfois Allah prend. On a un PV, autre chose, tu dis que subhanallah. Des fois, tu ne donnes pas l'aumône, tu retiens ta main et Allah te montre que l'argent, c'est pas, ça pas pour ça. Ça part dans d'autres choses, dans des choses qu'on n'avait pas l'intention. Donc, c'est un nasiha que je donne. Allez voir les responsables de masajid, approvisionner les stocks de tamr. Et le jeûneur qui va prendre cette date, ce 4 jours, cette date qui va manger en rompant son jeûne, tu as l'équivalent de sa journée de jeûne en récompense. Possible ça? Imaginez qu'un patron vous dit, bon, si tu as fait telle chose pour mon employé, je te donne l'équivalent de son mois de salaire. Juste lui donner un petit coup de main. Je lui te donne l'équivalent de 1700 euros comme lui il gagne. Juste en faisant un petit truc, oui. Ça existe ça? Ajib, récompense ajib. Donc celui qui peut donner à manger un jeûneur, subhanallah, qui permet à un jeûneur de rompre son jeûne, ça c'est le premier niveau, ajib les récompenses. Et le niveau supérieur, c'est celui qui invite, qui, le hadith, je ne l'ai pas sous les yeux, celui qui permet à un jeûneur de manger à ventre plein. Dans la mesure du possible, essayons d'avoir un invité. Je ne dis pas tous les jours, mais essayons d'inviter les gens à manger chez nous. Pas uniquement la famille. La famille a double récompense. Donner à manger à quelqu'un et un membre de la famille, on garde les liens. Mais on voit une personne miskine à la masjid, on voit des gens qui n'ont pas trop de famille, qui, voilà. On appelle les gens, subhanallah. Et avec cet espoir qu'Allah va nous donner des récompenses, donner à manger, ça fait partie des actions mythiques, des premières actions que le Prophète a enseignées aux Sahaba lorsqu'il est arrivé à Madina, des choses qui malheureusement ont perdues. Et dernier conseil, majalis de ilm. Le ilm, c'est ce qui va nous apporter la constance et la prise de conscience. Le ilm, dans la plupart des masajid, après la salat al-tarawih, il y a des programmes. Et très souvent, c'est des programmes d'explication de ce qui a été lu. Ça, c'est de l'or. Quelle que soit la masjid, si on a des programmes où le imam explique ce qui a été lu au salat al-tarawih, même quelques versets, ça c'est de l'or. Tous les dimanches matin, je parle de Saint-Denis, hein, tous les dimanches matin, il y a des programmes à 10h pour hommes et dames. Et les dimanches après la salat al-dhar, chaque dimanche, il y a des programmes uniquement pour les messieurs, mais vous allez peut-être voir les programmes, des sujets très intéressants. Ça doit être un mois de ilm également où on apprend à connaître, à apprendre sa religion. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte d'un tawfiq de vivre un mois fit-ta'a, en bonne santé avant tout. Qu'Allah nous accorde la santé, que personne ne tombe malade, qu'on ait la pleine possession de ses facultés et qu'on ait la motivation, qu'on ait la niaque spirituelle, on a envie de se dépasser, que jamais on soit touché par la lassitude et que bien au contraire, jour après jour, on ressent izdiyad iman, le iman qui augmente, la lumière qui augmente et encore plus de dévotion, encore plus de bonnes actions, inshallah, et qu'on arrive facilement à rester éloigné des péchés. Qu'Allah nous accepte. Inshallah, vendredi. Vendredi, si on ne trouve pas la lune, théoriquement, on ne trouve pas la lune, c'est ça? Normalement, ce n'est pas visible, hein? Normalement, par rapport à la naissance de la lune. Si on trouve la lune, alhamdulillah. Au cas où on ne trouve pas la lune, on fera un troisième programme au latanier. Le thème sera « Comment s'éloigner des péchés ?» Parce que ce qui nous ralentit de notre progression, même si on fait une nuit de tahajjud, mais si le matin on fait les mêmes péchés qu'en temps normal, on n'avance pas. C'est comme si tu avances de 3 pas et tu recules de 3 pas. Donc, on va essayer de voir comment se séparer réellement de nos mauvaises habitudes et de nos péchés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.